Vous écoutez
RMC.
RMC, le week-end des experts.
Ceci est un programme de bricolage.
7h-8h, votre maison.
Ce programme est agréé par le marteau, le mouvement amateuriste de réparation de tous les objets.
François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, 7h11, nous sommes de retour. Un grand bonjour à vous. Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. C'est le week-end des experts. Et après le jardin, et avant de retrouver tout à l'heure Christian, Christian Ricciard, il sera là.
Eh oui, il me fait la concurrence entre nous.
8h et 9h pour la forme et la santé. Avant tout cela, c'est la maison, bien sûr, hein, 7h-8h avec Christian PC. Bonjour Christian.
Bonjour François.
Alors, tout à l'heure, on parlera du grand retour de l'éco-PTZ.
Eh oui, c'est sympa. C'est une bonne nouvelle de rentrée.
Voilà, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour la rentrée en matière d'aide. On verra ça tout à l'heure. Notre dossier de ce samedi matin, eh bien, c'est le coaching bricolage. On peut, en fait, se faire coacher pour mieux bricoler.
Voilà, et on peut se faire aider autrement que par, il y a les tutos sur Internet, j'en ai fait beaucoup, hein, mais il y a aussi d'autres moyens, c'est-à-dire d'avoir véritablement un pro chez soi pour se faire aider. On va voir comment ça marche avec notamment un site spécialisé sur le sujet.
Et vos questions, bien sûr, vos questions maison à tout moment, au 3216, l'appli RMC aussi Direct Studio, si vous avez votre smartphone, vous pouvez à tout moment joindre nos experts en nous laissant aussi votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler comme ça dans la foulée. Et avant de parler des nuisibles du bois et comment les reconnaître, ces nuisibles du bois, Christian, ça sera dans un instant.
Oui.
Et bien avant tout cela, on accueille Jean-Pierre qui est là. Bonjour Jean-Pierre.
Jean-Paul.
Ah pardon.
Bonjour à vous.
Eh bien bonjour Jean-Paul.
Excusez-nous Jean-Paul, mais vous savez, entre une pierre et parfois un Paul, c'est court. Voilà, et oui. Là je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je crois même que la fête est le même jour.
Voilà. Donc, Pierre et Paul, c'est pas la même chose, mais enfin bon.
Vous êtes en Loire-Atlantique, hein, c'est ça.
Oui, Jean-Paul. J'habite à Saint-Nazaire. Voilà, j'ai une maison qui date de 2001. Oui. Et je l'ai repeinte cette année. Et voilà, j'ai démonté les grilles des VMC pour faire mes peintures. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très très sale derrière.
Oui.
Alors donc, au niveau de la grille, je peux nettoyer. Mmh. Mais fait-on pour nettoyer les VMC? Les tuyaux d'aération de la VMC, doit-on faire appel à une entreprise spécialisée? Je ne sais pas comment on fait.
Oui, alors la méthode est à peu près la même que pour le ramonage d'une cheminée. Alors il existe des kits qu'on peut trouver dans le commerce avec des goupillons adaptés à la taille donc des gaines, mais c'est quand même coton et je pense qu'il vaut mieux faire appel à une entreprise. Alors, les entreprises qu'on trouve dans le domaine, souvent se limitent à un contrat de maintenance annuel avec, le minimum le plus accessible, hein, c'est-à-dire le nettoyage des bouches, le remplacement des filtres lorsqu'il y en a au niveau des groupes, notamment pour les doubles flux, et qui aussi voit si la motorisation fonctionne correctement. Font véritablement le ramonage des gaines. Donc ça existe, il faut simplement en trouver. Alors on avait invité il y a quelques temps déjà, je crois que c'est il y a plus de 2 ans, France Hygiène Ventilation, qui est une des boîtes justement qui en France se développe pour faire ce genre de travail pro. Parce qu'en fin de compte, ça revient à faire de ce qu'on appelle de l'aérolique, hein, c'est-à-dire du travail avec des comme dans le tertiaire, comme dans les immeubles où périodiquement on devrait faire ça. Moi, je considère qu'il faudrait le faire tous les 5 ans. Hein, il faudrait le faire tous les 5 ans.
Je me suis rendu compte avec mes amis qu'il n'y a pas grand monde qui le faisait.
Mais non, il y a pas grand monde. Personne ne le fait.
Pour ça, je vous avais parlé de cette structure que je connais, mais qui n'est pas implantée en plus partout en France, mais il faut demander véritablement cette action. Je pense de toute façon que moi j'appelle depuis des années à une réglementation sur le sujet, la réglementation sur la ventilation et sur l'entretien notamment des systèmes, et sur la ventilation date, tenez-vous bien, de 1984. C'est vous dire si les choses ont évolué depuis 1984, notamment en matière de VMC. C'est tout à fait inacceptable qu'on nous oblige à faire un ramonage de cheminée qui souvent ne marche pas ou marche un mois par an et qu'on nous laisse avec des stalactites traite de poussière et de saloperie. Vous savez qu'il y a des...
Moi, j'ai eu cochonnerie,
on dit. Cochonnerie, oui, pardonnez-moi, excusez-moi.
Oui, vous en prie.
Je me lâche. Oui, mais vous avez compris, j'étais un petit peu motivé par le sujet. Et qu'on arrive à des situations, moi, on avait eu un témoignage il y a quelques années de cela, de quelqu'un qui avait de l'eau noire qui suintait de sa bouche de ventilation de VMC dans la cuisine. Ça tombait sur son évier. Hein, pourquoi? Parce qu'il y avait une accumulation par condensation d'eau dans ces conduits qui sont
qui emportaient en fait toute la saleté
et horrible. Me disait je dois avoir une fuite dans ma VMC. Ben oui. C'était pas une fuite dans la VMC, c'était une inondation dans la VMC.
Comment on nettoie ça en fait?
Eh ben comme on nettoie, normalement on doit avoir des gaines qui sont bien tendues, parce que tout le problème c'est souvent les gaines en zigzag dans des greniers mal isolés, et donc on a des phénomènes de condensation, de rétention d'eau dans les creux des gaines. Et puis une fois que tout cela est bien remis en ligne, eh bien on passe un goupillon tout simplement, on fait une aspiration et on nettoie ses gaines.
Voilà Jean-Paul.
Je vous remercie.
Il faut le faire. Il faut le faire. Et je dis à vous, mais je dis à tous ceux qui ont des VMC, au bout de 5 ans, on fait une véritable visite d'inspection des gaines.
Parfait, merci Jean-Paul. Il est 7h17, c'est RMC. Vos questions maison, profitez-en. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Il est temps de retrouver le conseil de Christian Pesset.
RMC, votre maison, le conseil béton de Christian Pesset.
Ça fait mal hein, quand il
tombe. Ça fait mal hein, quand ça tombe comme ça, hein, le marteau.
Ce
là,
c'est violent. Alors, comment reconnaître les nuisibles du bois?
Oui, alors, ces nuisibles du bois, eh bien, sont en fait de trois catégories. Ce sont les insectes oxylophages, c'est-à-dire ceux qui pondent dans les ouvrages en bois et dont les œufs donnent naissance à des larves qui creusent des galeries dans le bois pour s'en nourrir pendant leur phase de développement, jusqu'à la métamorphose de l'insecte et l'émergence de ce qu'on appelle l'insecte parfait. Hein, c'est celui qui bzzz, vous savez, ça c'est l'insecte parfait. Les insectes sociaux, alors Patrick Mulan tout à l'heure parlait d'une invasion de fourmis dans sa véranda, mais ce sont principalement les termites, hein, ce sont les termites, c'est plus redoutable, c'est ceux qui se nourrissent véritablement de la cellulose, et puis les champignons, dont le plus tristement célèbre est désormais la mérule, dont j'ai déjà souvent parlé. Alors, les reconnaître, c'est idéal, c'est bien, parce que ça permet tout de suite d'engager véritablement les travaux qui s'imposent, et ne pas se faire avoir par quelques margoulins qui, justement, vous demandent de vous conseille certains travaux qui n'ont pas lieu d'être. Alors, les insectes oxylophages, ils fonctionnent tous de la même manière. Je l'ai dit, ils pondent des œufs dans le bois, ils le piquent. L'œuf se développe en larve. Ça peut rester des années. Ah oui. Des vrillettes peuvent être dans un bois depuis 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avant de sortir. Et lorsqu'ils sortent, eh bien, ils laissent un trou. Alors, lorsqu'on voit un trou, on dit souvent, j'ai une attaque dans le bois. Mais non, elle a eu lieu. Puisque l'insecte, il est déjà...
Oui, il est parti, il est ailleurs.
Si ça se trouve, il n'y en a plus. Hein, bon. Alors, ça peut faire, suivant l'insecte, ça peut faire des trous de moins d'un millimètre. Ça, c'est par exemple les vrillettes. On va dire, vous savez, c'est les petites piqûres, notamment des meubles. Et puis, il peut y avoir des dégâts beaucoup plus importants. Par exemple, avec le capricorne, là, on a des galeries qui peuvent faire 8 à 10 millimètres de diamètre et qui se font parallèlement à la surface du bois, donc il n'y a pas beaucoup de sorties. Hein, et ça, là, effectivement, le bois devient complètement vermoulu. Alors, le termite, lui, c'est un insecte social. Il mange le bois pour ramener la cellulose dans la termitière. De la même façon que les fourmis ramènent dans la fourmilière.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas sur place,
ils font leurs courses. Donc, en tant que tel, individuellement, c'est pas dramatique, sauf que là, c'est le nombre phénoménal.
Bien sûr. Hein.
Ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'insectes qui peuvent se développer. Alors, comment on les détecte? Eh bien, par une fragilisation. D'abord, on les voit parfois, mais c'est rare, parce que le termite, notamment, il a l'horreur de la lumière et des ultraviolets. Alors, il faut, lorsqu'on a...
Donc, c'est la nuit qu'on les voit plus?
Non, ils restent toujours dans le bois, sauf que quand on donne un coup de poinçon dans le bois, lorsqu'on suspecte une invasion, eh bien, votre
oui, poinçon... Oui, il est tellement mangé, le bois, que...
Parce qu'il n'y a plus qu'une pellicule, mais c'est incroyable. Alors, il y a une manière de les détecter, c'est que le termite ne mange pas tout, évidemment, s'il tombe sur du béton très, très solide,
là, ou
s'il tombe
il a du mal à le digérer.
Sur du fer, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, bien, c'est pas con, ces petites bestioles. Ça se fait un petit tunnel. Pardon, oui. Ça se fait un petit tunnel. Ça se fait un petit tunnel. C'est-à-dire un cordon qui
va éviter, en fait.
Qui va éviter. Et comme ça, ça lui permet de rester dans le noir.
Eh oui.
Alors ça, c'est la cata. Quand on voit ça, évidemment, il faut véritablement intervenir très vite. J'en ai fini avec les champignons du bois. Alors, il y en a des quantités de champignons. C'est pas parce qu'on a des champignons suite à de l'humidité dans la maison que c'est forcément du mérule ou de la mérule. On sait pas très bien le sexe de la bestiole. Ça forme une espèce de masse, vous savez, le mycélium cotonneux, ça envahit, c'est suintant, c'est marron, c'est blanc. Enfin, c'est absolument dégoûtant, je vais pas dire dégueulasse parce que non. Sinon vous allez me reprendre évidemment. Et ça développe aussi des filaments gris qui se développent et qui vont chercher l'eau, et c'est ceux-là principalement qui bouffent mais n'importe quoi. Là, ça c'est capable de traverser y compris le béton. Alors tous les champignons ne sont pas des mérules, loin de s'en faut. Il y a en France plusieurs dizaines de milliers d'espèces de champignons qui bouffent le bois, lignivores. Alors le pire n'est jamais certain, mais seul un spécialiste peut véritablement l'identifier. Et en général, en faisant un prélèvement et pas simplement en disant « Oh, ça c'est du mérule, il faut véritablement... » Bon, non. Mais sauf que non traité, eh bien, ça peut vous mettre une maison complètement par terre en quelques années.
On peut être obligé de partir de la maison.
Oui, on peut être obligé de donner un coup de bulle lorsque la maison, par exemple, c'est une maison qui n'a pas été habitée pendant très longtemps,
qui est complètement mangée. Alors,
le principe, c'est quoi? C'est humidité, chaleur, absence de lumière. Ça, ce sont les trois conditions qui vont permettre le développement des champignons. C'est tout à fait essentiel d'intervenir, et pas par ses propres moyens, sauf si on est un peu spécialiste, il y a les moyens d'injection, etc. Mais il vaut mieux faire appel quand même à des spécialistes avec des produits hautement efficaces.
Sur Direct Studio, nous avons Valérie qui nous dit « Moi, j'ai des abeilles charpentières. »
Oui, alors ça, c'est...
Ils s'attaquent à mes poutres.
Oui.
Une calamité, que faire?
Alors, bon, que faire? Alors, c'est très difficile parce que l'abeille charpentière, elle pond un œuf, hein, qui crée un conduit, donc dans le bois, donc qui va faire ce trou. La petite bête qui va s'en aller, elle est programmée pour revenir au même endroit.
Donc, elle a un GPS.
Elle a un GPS qui, généralement, la ramène au même endroit pour pondre là où sa maman
si
l'avait pondue.
Si on bouche les trous.
Bah voilà, on bouche, on peut boucher, traiter, mais c'est effectivement... Alors, normalement, les dégâts ne sont pas spectaculaires, mais là, peut-être, c'est le cas, comme disait Miu Miu tout à l'heure, qui est envahi par une fourmilière dans sa véranda. C'est pas le plus classique, c'est pas le plus répandu.
Oui, bien sûr.
Mais, effectivement, l'abeille charpentière ou guêpe charpentière est très ennuyeuse, parce que là, ça fait des gros trous, en plus.
En plus, elle porte bien son nom. Hein. Là, elle nous avertit quand elle arrive. Attendez, les gars, je m'appelle l'abeille charpentière. Je m'attaque à quoi?
Alors, ça ressemble pas vraiment à une abeille, c'est plutôt une grosse mouche noire.
Tiens, voilà. D'accord. Et pourquoi on appelle ça abeille, alors?
Parce que ça fait bzzz.
Faites bien le...
Bzz, bzz, bzz. Hein,
oui. Oui. Et Christian Pesset, l'adepte, c'est le roi du bzzz.
Voilà.
Alors attention, on revient dans un instant sur RMC et on va attaquer notre dossier de ce samedi. Est-ce que vous voulez être coaché pour mieux bricoler? Et comment ça marche? Bien, vous verrez, encore une fois, le web a tout révolutionné. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 7h-8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
On fait du bricolage, c'est du bricolage, yeah, yo, on va retrousser nos manches et mettre la main à la pâte, sans s'y prendre comme un manche, faut que j'enfonce le clou, alors passe-moi le maillet par le manche, qu'on vienne le clou du spectacle dès qu'on brûle les plombs.
Yo, le bricolage.
Alors là, bravo, je connaissais pas. Hein.
Vous connaissez pas cette chanson?
Non,
moi non plus. Mais c'est pardon, les... Des Zwinkels, on dirait une marque d'apéritif. Tiens, passe-moi des Zwinkels, s'il te plaît, avec le... Non, ça fait un peu ça quand même. Bon, Christian, attention, oui. Parce qu'on plaisante, mais là, on va être coaché pour devenir encore meilleur bricoleur.
Oui, parce que,
autant vous dire qu'avec moi, il y a du boulot.
La rentrée, c'est propice aux travaux de bricolage, mais quand on n'est pas un pro, c'est pas toujours facile de se lancer.
Bah oui.
Surtout pour des travaux d'importance.
Alors, heureusement que vous êtes là. Hein. Finalement, vous nous faites un peu de coach tous les samedis matins.
Je fais du coaching tous les samedis matins.
C'est ça.
Je peux même aussi en faire en direct. Mais on va parler aujourd'hui donc d'une nouvelle méthode, j'ai dire, qui est la possibilité de se faire accompagner par un coach qui pourra vous donner des conseils et mettre aussi la main à la pâte avec vous. Alors, on va s'interroger comment le trouver, comment ça marche, etc. Et nous avons avec nous deux invités ce matin. Dimitri De Cruz, bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour. Vous êtes fondateur et patron du site moncoachingbrico.com. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Il n'y a pas de doute.
Il n'y a pas de doute. Et Gérard Juillard.
Bonjour Christian.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes alors vous coach justement dans l'équipe de Dimitri ou avec lui. Et donc vous allez nous expliquer en quoi consiste votre travail. Ma première question, elle sera pour Dimitri. Comment on peut définir le coaching en bricolage? Quelle différence avec les cours, par exemple, que donnent les grandes surfaces de bricolage depuis très longtemps?
Alors, chez mon coach Brico, ce qu'on fait, c'est des cours de bricolage à domicile. Donc, en fait, c'est comme un coach sportif, c'est un professionnel qui va venir chez vous pour vous apprendre et vous guider étape par étape sur votre projet pour vous permettre de le réussir.
D'accord.
Donc, ça va commencer par une planification et budgétisation des travaux. Et ensuite, des cours pratiques où on va mettre en œuvre, on va partir, vous allez continuer. Et ça, tout au long du chantier.
On prend un exemple, par exemple, je sais pas, je dois repeindre ma maison, voilà, mon salon. Donc là, je fais appel à vos services. Il y a quelqu'un qui va m'aider donc à repeindre ce salon.
Voilà, donc par exemple sur un salon, l'étape d'avant, la peinture, c'est diagnostiquer l'état du mur. Donc pour ça, c'est souvent l'étape la plus compliquée.
Bien sûr.
Et en fait, c'est à ce moment-là où le coach, il va venir une première fois sur le chantier, voir l'état du mur, lister dans quel ordre faire les travaux. Parce que là, on parle des murs, il y a peut-être les plafonds également.
Oui.
Donc on va faire l'ordre dans lequel on va faire les travaux, on va planifier. Ensuite, on va faire la liste d'achat de tout ce qu'il faut prévoir. Ça permet à nos clients de budgétiser leurs travaux. Et ensuite, on va accompagner avec des cours pratiques où s'il y a une préparation de mur à faire, on va venir faire la préparation, le ratissage ou autre. Et ensuite, les techniques de peintre où là, on va mettre en pratique la peinture.
Alors, concrètement, je vais sur votre site, qu'est-ce que je trouve? Comment est-ce que je définis déjà mes travaux? Est-ce que j'envoie des photos? Je sais pas comment ça marche.
Alors,
concrètement.
Concrètement, donc aujourd'hui sur moncoachbrico.com, on part du projet. Donc vous allez sur le site internet, vous nous présentez votre projet. À ce moment-là, nous on va revenir vers vous par email ou par téléphone pour vous dire la solution de coaching qui est la mieux adaptée. On a différentes offres, différents volumes d'heures. En fonction de ça, on va vous indiquer.
Parce que c'est des heures.
Tout à fait, c'est des heures de coaching.
En heure.
Tout à fait, c'est budgété en heures. C'est pas au mètre carré, c'est pas la tâche.
D'accord.
C'est vraiment en heures. Et nous, on va diviser par session de formation.
Et les types de travaux, c'est que c'est du petit bricolage ou ça peut aller jusqu'à, je sais pas, des interventions, y compris sur le gros œuvre?
Alors, le gros œuvre, on en fait peu pour des raisons de coût d'achat de l'outillage, par exemple. Tout ce qui est second œuvre, on va pouvoir le faire. Donc, les travaux de rénovation, enfin, les sols, les murs, il n'y a pas de problème. L'électricité, la plomberie également.
Électricité, plomberie, oui, donc des domaines quand même qui appellent une certaine technicité, un certain professionnalisme.
Voilà, tout à fait, des domaines où il faut des compétences, mais nos coachs les ont. Et en fait, si on est bien guidé, bien accompagné, on peut y arriver.
Alors, c'est qui vos coachs? C'est pas des salariés de chez vous?
Alors, on a deux types de...
On va en parler avec Monsieur Juillard.
Voilà, on en parlera avec Gérard. Nous, dans le réseau, on a principalement des artisans, donc ce sont des professionnels ou d'anciens professionnels. On a aussi beaucoup de retraités. Du bâtiment. Et il y en a qui sont salariés, il y en a qui sont sous-traitants.
D'accord. Et le contrat, il se fait avec qui? Avec le coach ou avec vous?
Tout se passe avec nous. Donc, c'est nous qui contractualisons avec les coachs et avec les clients. Donc, c'est nous qui intervenons en termes de responsabilité.
Alors, le coach, il peut apporter simplement un conseil ou il intervient aussi?
Le coach, c'est des cours pratiques. Donc, en fait, on va faire avec le client les travaux au démarrage, mais le but, c'est qu'il y ait une transmission. Donc, il va pas faire la place 2. C'est comme un coach sportif. Si vous le prenez pour avoir un... Bon, l'été est fini, mais
oui,
pour avoir un beau corps...
il va pas courir à votre place.
Voilà, il va pas courir à votre place, mais il va nous dire comment courir, à quelle fréquence il faut le faire. Et il va nous accompagner sur les premières séances pour nous apprendre à faire correctement. Le coach Brico, c'est la même chose.
D'accord, donc il va pas faire le travail à notre place. Hein. C'est pas un artisan traditionnel. Mais l'objectif, c'est que quand on a terminé, par exemple, de repeindre son salon, on sache pouvoir le refaire, si on en a besoin, c'est ça, hein?
Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une transmission, donc pour pouvoir refaire. Et à côté de ça, le principe, c'est de faire des économies en faisant soi-même. Donc si l'artisan est là tout le long, on fait pas des économies.
Et
donc
voilà,
le but, c'est qu'on soit là au démarrage et à chaque étape pour guider.
Gérard Juillard, donc,
bonjour.
Bonjour. Vous êtes, alors vous êtes coach, vous êtes un artisan, et vous intervenez dans quel domaine pour Dimitri?
J'interviens dans le domaine de coaching, tout simplement étant artisan depuis plus de 35 ans dans le second œuvre, j'interviens dans tous les domaines qui me concernent, donc électricité, plomberie, puis revêtement mural, peinture, carrelage et
d'accord. Et vous êtes toujours en activité aujourd'hui?
Là, pour l'instant, je suis toujours en activité. Le coaching me permet quand même de...
Ça vous fait un complément?
Disons que ça fait un complément. Et puis, comme bien, j'aime bien transmettre mes connaissances à d'autres personnes, je suis assez...
Je suis sûr que Gérard, c'est un bon coach. Mais il faut pas rigoler avec lui. Ouais. Moi, je suis sûr qu'avec Gérard, voilà... Si on se trompe du truc, du machin, on fait une bêtise, là, paf!
Un coup de maître, tac, sur les doigts, non, c'est.
Vous êtes un gentil coach.
Je suis très, très sociable.
Et bon, alors, d'expérience, c'est quoi, ce que demandent les gens? Est-ce que c'est vraiment un cours? Parce que, on sait que dans les grandes surfaces, la difficulté principale, c'est que les gens n'ont pas vraiment envie de retourner à l'école et de démontrer qu'ils ne savent pas grand-chose. C'est l'obstacle, hein, parce qu'il y a des cours grande distribution, parce que François va encore me rappeler.
Non, c'est pas un gros mot.
Grande distribution, c'est pas un gros mot. Ça n'est pas pour certains. Mais est-ce que, justement, c'est du conseil ou c'est plutôt pour, finalement, vous voir travailler?
Non, disons que les cours qu'on trouve dans la grande distribution sont un premier pas pour savoir si la personne veut bien est capable de le, c'est-à-dire qu'elle puisse
devenir autonome.
S'auto-faire, ça n'existe pas. Mais quels sont est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de chantiers que vous avez fait justement en tant que coach?
Donc moi j'ai fait chantier sur un coach, alors un client qui avait fait un test sur un atelier de...
Ah ouais, donc c'est l'entrée.
Voilà, donc il est revenu vers nous et puis il nous a dit tiens, j'ai de la plomberie à faire, j'ai de l'électricité à faire, parce que je refais ma cuisine, il venait juste d'acheter un appartement. Et à partir de là, il m'a dit je voudrais bien apprendre. Donc moi j'ai été chez lui, j'ai fait sa première visite conseil, ce que j'appelle visite conseil, pour savoir réellement le projet, si réellement moi je voyais avec lui s'il était capable. S'il avait pas de main gauche, hein, entre guillemets, parce que des fois ça...
Qu'est-ce que vous avez contre les
mains gauches? Ça vous fait rire, hein, les deux mains gauches. Et oui, non mais c'est vrai, non mais il y a des gens qui sont plus ou moins doués.
Après la capacité et puis la compréhension aussi de la personne.
Hein,
expliquer à une personne...
C'est complètement obtus, c'est pas la peine.
Voilà, exactement. Si elle comprend pas, on va lui gentiment lui dire bon...
Allez,
passez à autre chose. Donc là, c'était... il refaisait sa cuisine, donc toute la plomberie, toute l'électricité, et donc je l'ai accompagné sur 6 heures de coaching. Et enfin, après il m'a dit, j'ai une douche à changer, j'ai une baignoire, je voudrais mettre un bac à douche, est-ce que c'est possible? Donc à partir de là, j'ai encore continué à coacher.
Il y a quand même des questions de normes aussi,
d'électricité. Exactement.
C'est pas le tout d'avoir des fils.
Oui, voilà, exactement. Il faut connaître au moins les normes de base.
Voilà, les couleurs, les conducteurs, etc.
Les conducteurs, et puis le diamètre du conducteur.
Des fils,
voilà, et puis
Gérard,
les normes de sécurité.
Comment ça se passe, vous, durant tout le chantier, vous venez par exemple une heure par jour, ou comment ça se passe concrètement?
Non, concrètement ça se passe, déjà la première visite c'est une heure. Une heure, on détermine tout ce qui est matériel, tout ce qui est outils qui doivent avoir en leur possession.
D'accord, parce que j'en profite. Oui. C'est pas vous qui amenez vos outils, c'est ou les produits. Voilà. C'est le particulier qui va devoir les acquérir.
Normalement, parce que de toute façon, après, une fois que je suis parti, il faut qu'il ait ses outils pour continuer.
Il va pas garder vos outils.
Voilà, exactement. Donc donc il peut les louer ou les acheter ou les faire prêter par le voisin, par le copain.
Par exemple, vous pouvez très bien accompagner ce client dans une grande surface de bricolage pour dire, il faut acheter ça.
D'accompagner des clients dans une grande surface pour faire leurs achats.
D'accord. Donc ça, c'est la première partie. Et après, comment se découpe votre coaching?
Alors le coaching se découpe en heures, donc en général c'est 3 heures, donc 3 heures, il prend 3 heures de coaching. Sur les 3 heures, je lui montre, s'il ne connaît pas les outils, je lui fais un cours sur la manipulation des outils.
Vous faites une démo.
Après, le client, il fait par lui-même. Oui. Je suis derrière lui pour lui dire, ben non, mais c'est pas comme ça qu'il faut se faire. Et puis si vous faisiez comme ça, ça serait beaucoup mieux. Donc
il
donne des conseils.
Et là ensuite, il se lance.
Et ensuite, il se lance.
Et vous venez en milieu de chantier, par
non,
exemple.
Non, c'est-à-dire que là pendant le reste du temps, parce que montrer et puis mettre les mettre en place le travail,
oui.
Il faut comment dirais-je, il faut qu'il puisse savoir bien manipuler
les étapes,
voilà. Donc il fait une étape, si l'étape elle dure 10 minutes, un quart d'heure, il a ouais. fait, moi je reste et puis on passe à l'étape suivante. Si elle dure plus longtemps, bon ben il va me dire ben je vais en avoir pour un ou deux jours, dans deux ou trois jours on reprend rendez-vous. Et on continue.
D'accord.
Très bien, on revient dans un instant. Il est 8h20. Vous vous dites, c'est bien sympa ce coaching qui peut être séduisant, mais... hein, pourquoi pas.
Bah bien sûr.
Franchement,
mais...
si on peut apprendre et après reproduire ce type de travaux, pourquoi pas. Mais ça coûte combien? Voilà. Et bien voilà, la réponse,
on va voir
l'aura dans un instant.
Avec Dimitri.
Voilà, Dimitri de Croze va tout nous dire. Et puis, nous aurons Mickaël aussi au 32-16 qui a un problème avec son carrelage, tiens, qui fissure. Et... visiblement, sa
c'est
maison
pas souvent que ça arrive,
est
ça,
assez récente, ça. Donc il aimerait savoir s'il y a des assurances qui peuvent rentrer en compte. 3216, l'appli RMC Direct Studio pour nous joindre avec votre numéro de téléphone. C'est votre maison jusqu'à 8h. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Voilà, 7h42, le retour du week-end des experts et c'est la maison. On parle de coaching bricolage ce matin avec nos invités.
Oui.
Gérard Juillard qui nous a expliqué qu'il était coach, sur le site moncoachbrico.com et qui vous aide par exemple à refaire votre salle de bain, votre cuisine ou à repeindre votre salon. Et puis il y a aussi Dimitri de Croze qui est fondateur et patron donc de ce site moncoachbrico.com, Christian.
Effectivement, alors Dimitri, on a parlé, on a compris je pense comment ça fonctionnait. Alors maintenant, il faut passer à la douloureuse si j'ose dire. Combien ça coûte et quelles sont aussi les garanties, parce que c'est important, on va justement avoir un auditeur qui ça a été dit à propos du carrelage qui se pose des questions sur des garanties. Quel est le principe de tarification?
Donc on est sur une tarification à l'heure avec des packs d'heures qui vont de 1h à 10h ou plus. Le tarif en moyenne il est entre 65 et 70 euros de l'heure. Sur ça, les clients bénéficient de 50% de crédit d'impôt car on est une entreprise de service à la personne.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Voilà, donc il y a 50% de crédit d'impôt sur ça. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est dans le bâtiment, ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre. C'est en général plus de la moitié du coût des travaux.
On est d'accord.
Avec nous, une pose de carrelage, ça va coûter après crédit d'impôt 115 euros. Ça représente 4 mètres carrés posés par un artisan.
D'accord. Mais alors, question garantie après, parce qu'il y a là un certain... Il peut même y avoir, j'imagine, vous avez même parlé de gros œuvres tout à l'heure, même si ce n'est pas l'essentiel, mais il peut y avoir des garanties décennales ou tout simplement la garantie de résultat. Parce que, on va dire, est-ce que la responsabilité d'une mauvaise pose, ça va être la faute du coach ou ça va être la faute de l'intervenant?
Alors, ces questions-là de garantie, c'est bien de les souligner parce que lorsque j'ai créé l'entreprise il y a 4 ans et demi, ça a été un vrai casse-tête de trouver un assureur pour nous suivre sur ce niveau-là. J'imagine. Sur des notions qui n'existaient pas. Donc aujourd'hui, on est suivi par AXA et en fait, on a une assurance qui couvre les défauts de conseil qui pourraient intervenir du coach.
D'accord.
Parfait, très bien. moncoachbrico.com.
Voilà, très bien, si merci Dimitri de Croze, merci Gérard.
Et puis j'imagine qu'il existe d'autres sites, d'autres plateformes comme les vôtres qui proposent à peu près le même service. Hein. Mais là, il suffit d'aller sur Google pour les trouver. 8h moins le quart, on accueille Mickaël qui est là. Bonjour Mickaël.
Oui, bonjour Mickaël, vous allez bien?
Bonjour, très bien, merci.
Alors Mickaël, vous nous avez envoyé un petit message sur Direct Studio il y a quelques minutes. Pendant la pub, j'ai posé la question à Christian qui m'a dit « Ouh là 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 !» Et quand Christian dit « Ouh là 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 !»
c'est pas bon.
C'est pas bon, donc on vous a rappelé en urgence, Mickaël.
C'est gentil de votre part, je vous remercie de m'aider.
Je vous en prie. Alors expliquez-nous.
Alors moi, du coup, j'ai construit ma maison, donc ça s'est achevé en fin 2011.
Ouais.
Et je me suis aperçu donc en début d'année que mon carrelage fissure, mais quand je dis fissure, il fissure sur toute la longueur d'une pièce à plusieurs endroits. Donc je me demandais, est-ce que c'est dû à une chape qui a été mal faite? Est-ce que du coup, parce que le carrelage est collé à la chape.
Et voilà.
Quand ils ont fait le carrelage, du coup, il est collé à la chape et dessous, j'ai un chauffage au sol. Donc, qu'est-ce que c'est un rapport
de Et qu'est-ce que vous avez comme chape?
C'est une chape qui a été faite artisanalement.
Oui, mais c'est une chape, c'est une chape mortier normale ou c'est une chape anhydrite?
Non, mortier normal.
Bon. Alors, de toute façon, quel que soit le type de chape.
Quel âge a votre logement, Michael?
Il était achevé en fin 2011.
Il y a déjà un moment. 8 ans. Hein. Ça veut dire 8 ans.
Il y a 8 ans, voilà.
Alors, de toute façon, carrelage collé n'est pas couvert par la décennale. Donc, ça, c'est la première des choses. Puisque seul si le carrelage est scellé, on peut considérer qu'il fait partie intégrante du bâti. Donc, il est fatalement, pour l'enlever, il faut véritablement engager des travaux destructifs, on va dire. Et donc, à partir de là, vous n'êtes pas couvert par la décennale. Vous ne pouvez pas faire jouer.
Tant collé, scellé, alors ça n'a rien à voir avec une chanson très connue.
Hein, oui, bien sûr.
Scellé, tout
ça. Collé, c'est simple. La chape est sèche. Normalement, elle est complètement sèche et on va coller avec de la colle, avec un ciment colle, on va coller le carrelage dessus. C'est directement dans la chape quand elle est fraîche.
D'accord.
Ah oui.
Donc il est scellé, alors il n'est pas collé alors.
Attention, Mickaël, parce que là, tout change. Mickaël, attention.
Donc là,
vous êtes sûr qu'il est scellé?
Parce qu'il a été fait en même temps que la chape, en fait. Il avançait avec la chape, il mettait le carrelage dessus en même temps.
Vous êtes scellé. Vous avez une assurance dommage ouvrage?
Oui.
Oui?
Oui, 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 sûr, oui. Ou parce que vous faites un petit oui?
C'est un petit... Enfin, je regarde, mais après, parce que je suis passé par un maître d'œuvre, donc après, j'ai la décennale, c'est sûr, la dommage ouvrage, effectivement, je suis pas sûr. Bon. Après, je regarde.
Vous devriez avoir la dommage ouvrage, je dis toujours qu'il faut avoir la dommage ouvrage.
Mais ça, c'est quelque chose que Michael devait...
Avant la construction, donc c'est simple.
Mais là, c'est l'initiative du
Non, c'est un particulier qui...
C'est le particulier,
qui est conseillé normalement par celui qui est maître d'œuvre, qui lui dit il faut prendre une dommage ouvrage, puisque c'est la loi. Donc, à partir de là, c'est ça.
Donc on est obligé de prendre une dommage ouvrage?
Oui, on est obligé de prendre une dommage ouvrage, mais si on la prend pas, il n'y a pas de sanction. Donc, la plupart des gens s'en exonèrent. Beaucoup de gens s'en exonèrent.
Et vous vous souvenez pas d'avoir souscrit cette dommage ouvrage, Michael?
Non, je ne me sens pas.
Donc, maintenant, si vous aviez l'assurance dommage ouvrage, vous vous adressiez à votre assureur, c'est à lui qui se débrouillait sur la notion de procédure par rapport à la mise en jeu de décennale. Maintenant, vous ne pouvez vous adresser qu'à l'assureur et qu'à à celui qui a fait la chape.
Alors maintenant,
en l'occurrence, ça peut être le carreleur ou le chapiste, parce que l'une des raisons qui fait souvent qu'ensuite le carrelage se fissure, mais ça se produit pas 8 ans après, ça se produit immédiatement, c'est-à-dire qu'enfin immédiatement dans les mois qui suivent, c'est que la chape n'est pas assez sèche. Si la chape n'a pas bien séché, si on a mis un carreau, on a scellé un. Enfin là, en l'occurrence, maintenant vous me dites qu'elle est scellée. Alors donc c'était si elle était collée. Ah, j'étais en train de vous dire une bêtise. Donc il faut voir si après le dosage de la chape est bon. Et si là il y a des expertises, mais il faut vous adresser donc à.
Et le fait qu'il ait un chauffage au sol électrique, est-ce que ça peut impacter?
Oui, bien sûr, ça peut impacter.
Et fissurer les carrelages.
Fatalement, c'est pas le chauffage électrique qui fissure le carrelage, c'est simplement que la chape.
Le changement de température comme ça.
Parce que quand on a un chauffage au sol, il faut prendre certaines précautions lorsqu'on pose son carrelage. Donc il y a aussi la taille des carreaux, il y a un certain nombre de choses qui peuvent jouer. Maintenant, faites jouer la décennale, parce que ça. Vous êtes 8 ans après.
Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut qu'il contacte
l'entreprise qui a fait le travail.
Il va se débrouiller avec l'entreprise qui a fait le travail. Il leur dit quoi?
Mon carrelage est fissuré. Faites faire une expertise à ce moment-là. Faites-la déjà vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir déjà avoir un avis aller voir votre entreprise de façon circonstanciée. Le problème, c'est que n'ayant pas une dommage ouvrage, vous allez être confronté vous-même au conflit avec l'entreprise concernée. Donc c'est là où évidemment c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi je conseille toujours de prendre l'assurance dommage ouvrage.
Avec la dommage ouvrage, ça aurait été plus simple.
Bien sûr, serait plus simple. Vous n'aurez et l'assurance dommage ouvrage jouant, l'assureur désignerait lui-même une entreprise, mais pas forcément celle qui a œuvré.
Qui a fait.
Voilà.
D'accord. Tout
bon,
à fait.
Voilà,
d'accord.
Voilà, Michael.
Bon, très bien, je vous remercie.
Tenez-nous au courant.
Mais pas de souci.
Hein? Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir, Michael.
Au revoir.
Et bonne chance.
Et nous avons notre deuxième Morissette de ce samedi matin, les amis. On en avait une tout à l'heure avec Patrick, et nous en avons une deuxième qui est à Montfermeil. Bonjour Morissette.
Oui, bonjour à votre équipe.
Bonjour Morissette. Oui,
j'ai besoin d'éclairage, si je veux plaisanter, mais je voulais changer...
Il vous faut combien d'ampoules?
50 watts.
Ah, bah ça va, donc tout va bien, ça c'est jouable, on peut vous la donner.
J'ai besoin d'éclairage pour un tableau électrique. Je voudrais faire changer parce qu'on me dit si je voudrais vendre, ça bloque au niveau du notaire. Donc j'ai fait venir un artisan, mais j'ai l'impression de nager en eau trouble parce que le devis, j'ai l'impression qu'il peut m'emmener n'importe où parce que j'ai aucun montant sur ce devis.
Alors, premièrement,
quel âge a votre tableau électrique déjà?
Il a 30 ans.
Oui. Bon, pipo sur le fait que le notaire pourrait vous dire je ne vends pas votre maison parce que
l'électrique n'est pas au niveau.
Il va y avoir un diagnostic électrique que vous pouvez même faire maintenant et qui va définir ce qui doit être normalement amélioré dans votre installation électrique pour qu'elle ne soit pas dangereuse. Ensuite, vous n'êtes même pas obligé de le faire.
Il faut l'informer lors de la vente.
Voilà, ça veut dire que
le nouveau
propriétaire sera au courant de l'état, mais il y a de tous les, c'est la totalité des diagnostics qui permettent cela. Le diagnostic antiparasitaire pour les petites bestioles dont je parlais tout à l'heure, le DPE pour la notion de consommation électrique de votre maison ou consommation de chauffage d'une façon générale, etc. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de faire venir un électricien. Non pas d'aller chercher tout de suite, ou de faire venir un coach peut-être, mais c'est de faire venir un électricien pour qu'il apprécie l'état de votre installation. Et à partir de là, eh bien, vous ferez ou non les travaux en fonction de ce que vous pourrez vendre votre maison, où vous intégrerez la moins-value dans votre vente.
Il y a une dépréciation forcément du prix de la maison, parce que l'électricité n'est pas aux normes, donc le nouveau propriétaire sera obligé de la mettre aux normes, d'accord? Enfin, ou pas, mais en tout cas, c'est dévalorisé. Mais ça ne vous empêche pas de la vendre, Morissette.
Voilà.
Oui, mais excusez-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils peuvent pas voir parce que j'ai un artisan qui s'est déplacé, mais le devis, je l'ai pas, il a pas su le faire j'ai l'impression de nager en eau trouble. C'est ça qui est.
Eh ben, il faut trouver.
Un autre artisan.
Vous faites électricien dans l'annuaire, dans votre environnement, et vous faites faire au moins 3 devis.
Merci Morissette. Allez, pour terminer, Christian, votre coup de cœur avec le grand retour du fameux PTZ.
Oui, c'est l'arrêté ministériel qui a été publié cette semaine, le 20, vous voyez, c'est tout récent, qui marque la relance de l'éco-PTZ, autrement dit du prêt à taux zéro, pour la rénovation des logements, mais plus largement pour d'autres travaux, notamment les travaux d'assainissement. Alors, il n'y a plus besoin de faire un bouquet de travaux, ça c'est la première des choses. Il y a un nouveau texte réglementaire qui est sorti, donc les banques peuvent pas dire qu'il n'y a plus de texte réglementaire. Il y a aussi un nouveau formulaire, parce que tenez-vous bien, ça coinçait, parce qu'il n'y a pas de nouveau formulaire. Tous les travaux achevés depuis plus de 2 ans, tous les logements achevés depuis plus de 2 ans sont concernés maintenant. Aussi les travaux d'isolation des planchers bas, c'est très important. La durée d'emprunt est portée à 15 ans pour tous les éco-prêts. La durée de cumul entre un premier éco-PTZ et un PTZ complémentaire est portée à 5 ans. Tout ça concerne des travaux qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros, c'est quand même pas négligeable. Ça concerne aussi maintenant les copropriétés, les propriétaires qui louent leur logement, et ça peut aussi toucher les parties communes. Et enfin, je l'ai dit à l'instant, les travaux d'assainissement sont aussi couverts, et c'est très important, parce que ça coûte très cher de mettre aujourd'hui aux normes, parce que là, en revanche, vous êtes obligé de mettre aux normes avant de vendre votre logement ou votre maison en matière d'assainissement. Donc, gros coup de chapeau. Maintenant, il faut que les banques se remuent parce que ça traîne toujours des pieds de ce côté-là.
Parfait. Merci beaucoup, Christian PC. Et un Christian PC cash, un Christian Requia.
Oui, qui est là.
Bonjour, docteur.
Toujours du concret, du pratique avec Christian PC. C'est formidable.
Alors, docteur, juste une petite question. Je pense qu'il va falloir que vous preniez en main Christian PC.
Oui, ça tousse un peu.
Il tousse, il renifle, il se mouche, il a le souffle court. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va falloir quand même que vous le fassiez une piqûre. piqûre en direct sur l'antenne.
Oui. Alors, nous avons
une énorme piqûre, s'il vous plaît.
François dit le aller.
Allez, François. Oui.
Allez, l'OM.
Et c'est vrai qu'il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. Oui, je le trouve. Je le trouve pas lourd. Je vais m'adresser à votre épouse, afin qu'elle vous soigne.
D'accord.
Bon, vous vous en occupez, Christian.
Merci les coachs. Merci les coachs.
Merci la France, comme dit Christian Ricard. Bon, on se retrouve dans un instant. Merci Christian Pessé.
Merci.
Prenez soin de vous. On se retrouve samedi prochain, 7h-8h. Et dans un instant, c'est la forme et la santé avec Christian Ricard. On va parler du gras. Il en faut pour le cerveau. Et on va évoquer aussi le sport en entreprise. Tiens. Et vos questions, bien sûr. Santé 32-16, à tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 8h-9h, votre forme.